France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Hélène Lorrain. J'ai lu Tambora, les larmes aux yeux et la boule au ventre. J'ai adoré, moi, le mélange de poésie et de faits historiques. J'ai été surtout soulagée de lire que je n'étais pas seule à ressentir ce que je ressentais.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'évidence de tenir dans ses mains un texte pour les temps présents, par les temps présents, avec une politique de l'écriture brassant des questions du temps présent, sans lâcher ni tendresse, ni regard, ni attention, voilà ce qui m'a saisie en commençant et en terminant le texte d'Hélène Lorrain au programme de votre book club aujourd'hui. Tambora, c'est son titre, tient ensemble des expériences, celles d'une interruption de grossesse, d'une autre grossesse, d'une vie avec des tout-petits-enfants, mais aussi la catastrophe écologique, le désir palpitant d'exister et d'écrire, et tient tout cela ensemble par une langue vivante. Certaines choses valent sans doute la peine d'être racontées pour la simple raison qu'elles se sont produites. Voilà ce qui a été, ce qui aurait pu être, ce qui est, ce qui arrive. Voilà ce que propose de dire ce court texte, récit, poème qui paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Verdier. Hélène Lorrain est notre invitée. À la fin, on jouera au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Hélène Lorrain.
Bonjour.
Votre texte Tambora paru aux éditions Verdier. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis.
Merci.
De vous recevoir. Le livre figure dans la première liste du prix Goncourt 2025. Quelle heureuse nouvelle. Vous aviez publié Partout le feu aux mêmes éditions Verdier. C'était en 2022. J'avais aussi été très touchée par ce texte, mais aussi par sa mise en espace par Hubert Cola avec Stéphanie Aflalo. Il avait connu d'autres vies théâtrales, mais celle-ci m'avait vraiment enchantée. Donc, je ne sais pas si elle se joue quelque part. Allez-y. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. Donc, on fait connaissance avec nos invités ou on refait connaissance avec nos invités en se demandant quel livre ils ou elles ont trouvé sur leur chemin. Il se trouve que votre texte, et c'est pas le seul en cette rentrée littéraire, est tissé de lectures, plus ou moins, des références plus ou moins appuyées, en tout cas des espèces d'horizons comme ça, de lectures. Je pense à Sylvia Plath, je pense à Mary Shelley, je pense à Maggie Nelson, je pense évidemment à Ursula Le Guin que vous placez, on y reviendra en exergue. Peut-être déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose, vous qui écrivez, vous qui lisez, que des auteurs, et peut-être un peu spécifiquement des autrices en cette rentrée littéraire, fascinent vers d'autres textes ?
Ben, je trouve ça très beau, parce que ça donne de l'ampleur à ce qui est dit, et peut-être que ça va dans le même sens que l'hybridité des textes, qui est vraiment quelque chose de contemporain, et qui est plus assumé. Là où l'intertextualité pouvait être peut-être implicite, des emprunts qui sont pas signalés, là, on va revendiquer être dans le sillage de telle autrice, tel auteur. Et je trouve ça beau que ce soit visible, je trouve ça important.
Est-ce que ça rend aussi visible un trajet d'écriture qui se fait en lisant pour vous ?
Oui, tout à fait. Ouais. Et peut-être que c'est un moyen de se sentir moins seul en écrivant, c'est-à-dire qu'on écrit avec la conscience de ce qui est venu avant, et parce que je trouve que c'est hyper important en fait de quand on écrit, en tout cas ça l'a été pour moi, pour se sentir autorisé, d'avoir des modèles dans lesquels on peut s'identifier. Et notamment le fait que moi j'ai lu très peu d'autrices à l'école. Peut-être la première dont je me souviens, c'était en première, et c'était Annie Ernaux. Mais je pense que le moment où j'ai compris qu'on pouvait être autrice, ça a été un moment très fort de permission, en fait. Et peut-être qu'en intégrant ces autrices, en tout cas, c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est des autrices que moi j'intègre à mes textes, je permets ça aussi à des jeunes femmes qui se le sont pas encore autorisées.
Est-ce que pour découvrir donc plutôt les autrices en classe de première et l'œuvre d'Annie Ernaux, est-ce que vous étiez par ailleurs lectrice d'autres choses avant cet âge-là ? Est-ce que vous avez eu une enfance qui regardait du côté des livres ou bof ?
Si. Il y avait beaucoup de livres chez mes parents, chez moi, il y en a toujours eu. Il y avait des passages hebdomadaires à la bibliothèque et j'ai toujours gardé un lien très... très fort aux bibliothèques. Je trouve que c'est un lieu quand même assez fabuleux et peut-être même utopique, osons le mot, comme ça, d'accéder aux livres gratuitement, en fait, et de découvrir aussi ce qui n'est pas chez nous, et découvrir par hasard, tomber sur un livre. Oui, j'ai appris à lire assez tôt, vers 5 ans, parce que j'avais sauté une classe, en fait, tout simplement, et je me souviens encore de ce moment de déchiffrage des mots et de l'émotion que ça me procurait et de l'espèce de d'avidité à déchiffrer. Et je pense d'ailleurs que j'ai retrouvé ce plaisir au moment où j'ai appris l'arabe adulte, où il y avait la découverte d'un nouvel alphabet et vraiment cette impression d'avoir accès à des trésors cachés.
Oui, d'ailleurs, l'attention aux mots est presque une attention comme ça à la loupe ou microscopique. C'est quelque chose qu'on trouve dans Tambora. Vous interrogez notamment en passant par d'autres langues, on y reviendra, mais on sent qu'il y a un appétit et aussi l'idée que dans les mots, il y a des mondes, ou qu'en tout cas, les mots nous renseignent sur des mondes. Ça, vous diriez que c'est quelque chose qui est lié à l'enfance. J'ai pas dit que vous aviez par ailleurs une activité de traduction, Hélène Lorrain, mais vous avez traduit depuis l'allemand vers le français, donc ça aussi, c'est une très grande attention à la langue, aux mots, au langage. Ça viendrait d'où ?
Bonne question. C'est vrai que j'ai un rapport peut-être de l'ordre de la gravité aux mots, c'est-à-dire que peut-être une conscience de la portée des mots. Ça vient d'où?
Peut-être ça vient pas. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que c'est.
Ben moi, j'ai une petite idée. Ah. Mes parents sont traversés dans la psychanalyse, et donc sans m'y intéresser énormément personnellement, enfin, j'ai lu quelques livres de Freud. J'ai essayé Lacan sans y parvenir, mais en tout cas, je pense que c'est plus un rapport au monde qui est. Dans l'analyse du sens des mots, mais aussi du son des mots, et sans pratiquer moi-même la psychanalyse, j'ai baigné dans ce rapport aux mots. Je pense que ça a été important, inconsciemment, en fait.
Tu peux le dire.
Exactement. Et donc, ça reste malgré tout. C'est pas un rapport léger. Et peut-être que c'est un peu pesant aussi parfois de se questionner autant sur ce que peut contenir chaque mot.
Mais ce qu'on entend aussi dans le mot que vous employez, qui est peut-être pas léger mais qui est beau, l'idée d'une gravité, parce que ça veut dire aussi que vous avez une attention au sens, un attachement au sens, dans un monde où quand même beaucoup de choses vacillent autour de ça, c'est qu'il y a une responsabilité dans les mots qu'on emploie. Hélène Lorrain.
Complètement. Et ça, d'ailleurs, je pense que ça se retrouve dans Tambora, c'est-à-dire dans l'idée d'essayer de déminer les mots qu'on accole à la maternité, à la grossesse, qu'ils soient du registre médical ou du registre quotidien, mais qui sont souvent euphémisants ou alors pseudo-neutres, mais qui portent en fait une grande violence. Et je me disais finalement que dans ces expériences qui peuvent être traumatisantes, parfois les mots pouvaient plus blesser. Par exemple, rien que le mot de fausse couche porte à la fois la faute, à la fois la fausseté. Et on ne retrouve pas ça dans d'autres langues, que ce soit par exemple en allemand ou en anglais. On a plus l'idée en allemand c'est Fehlgeburt, donc il y a l'idée de manque en fait.
Comme miscarriage, c'est quelque chose qui en effet n'a pas été quoi, mais pas exactement. Quelque chose qui serait ni faux ni pas bien.
Exactement, il n'y a pas de valeur morale en tout cas, et donc s'interroger comme ça sur tout ce bain de mots dans lequel on est, enfin, du verbe être, c'est réussir à prendre de la distance à cette double violence qui est celle de l'événement vécu et celle des mots qui mentent, qui sont accolés à cet événement.
Et c'est aussi être capable, et ça vous le faites vraiment dans certains chapitres, d'ouvrir les mots pour constater qu'ils sont porteurs d'une représentation du monde, laquelle représentation du monde est agissante en fait, et notamment agissante sur le corps des femmes, le corps des enfants, le corps des bébés, le corps des vulnérables, enfin que certains mots portent une vision du monde, et que cette vision-là, elle a une action.
Oui, bien sûr. Bah, au début de l'écriture de Tambora, c'est-à-dire il y a quand même assez longtemps, il y a plusieurs années, j'avais lu LTI, La langue du Troisième Reich, je crois que c'est ça, de Victor Klemperer. Donc un linguiste qui s'interrogeait, enfin qui interrogeait en fait le vocabulaire nazi en ce qui vider les mots de leur sens, notamment par des euphémismes, donc des déportations, c'était des évacuations, etc., ou qui utilisaient des adjectifs qui totalisaient dans ce mouvement totalitaire, sans faire l'analogie entre le jargon médical et évidemment la langue nazie. Mais en tout cas, ce travail-là permet notamment de se rappeler que effectivement les mots ont une portée directement politique sur les corps qui n'est pas sous-estimée.
Bien sûr, et c'est une portée qui est même organique, physiologique. On y viendra aussi en entrant plus en précision dans Tambora, mais quand sur une seule page, avec plein de blanc autour, le mot aspiration comme ça est posé dans une typographie toute particulière, Hélène Laura, on se rend bien compte qu'il ne rend pas compte de l'expérience physiologique vécue par la narratrice. C'est-à-dire que ce mot-là, il est insuffisant, il est violent, il est effaçant. En tout cas, il ne parvient pas à rendre l'expérience vécue.
Non, parce qu'il renvoie à l'aspirateur, donc à la propreté. Et il vient remplacer un mot qui était utilisé jusque-là. Alors, est-ce que c'est exactement le même procédé? Je ne sais pas, mais on a dit curetage, et curetage, c'est quand même beaucoup plus concret. Alors, je m'imagine que peut-être on va plutôt dire aspiration, parce qu'on se dit c'est moins violent quand même, c'est moins concret, c'est moins tangible. Et en même temps, par conséquent, il y a une telle inadéquation presque absurde entre l'acte subi et le mot qu'on utilise, que qui est une espèce de perte de repère et qui ne permet plus de valider le rapport à cet acte, les émotions, la peur, la souffrance physique. Donc il faudrait inventer d'autres mots, je ne sais pas lesquels.
Mais c'est aussi un appel à ça, et d'ailleurs vous en inventez, Hélène Laurin, dans votre livre Tambora. Peut-être on revient à vous en tant que lectrice, vous citez Ursula Le Guin en exergue de votre livre. J'ai dit aussi que vous parlez de Sylvia Plath dans un moment un peu particulier d'insomnie, vous parlez de Mary Shelley, de Maggie Nelson. Est-ce qu'en dehors de cette constellation-là sur laquelle on va peut-être revenir, il y a des livres ou des auteurs, autrices que vous auriez rencontrés sur votre parcours et qui auraient été des moments importants?
Alors, parmi celles que vous avez citées, mais justement, Maggie Nelson, c'était vraiment peut-être une des premières fois dans Les Argonautes que j'ai lu un récit d'accouchement qui n'hésitait pas justement à montrer la réalité de ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un moment de joie, mais c'est aussi avant tout un moment où le corps prend le dessus avec brutalité, où le sang se mélange au sel. Enfin voilà, il y a vraiment en aucun cas c'est enjolivé. Enfin, c'est la démarche de toute façon, je trouve, de Maggie Nelson, d'être comme ça dans une revendication en quelque sorte de l'impudeur comme un geste littéraire et politique. Et ça, c'est vraiment, je pense.
Et vous la lisez quand pour la première fois?
C'était il y a 8 ans, je pense, juste après mon premier accouchement. Ouais, Les Argonautes et ces autres livres, certains de ces autres livres m'accompagnent, notamment Bleuet, qui est comme ça une série de fragments d'une espèce de méditation autour du bleu, numéroté, une liste en fait. Alors déjà, moi j'adore les listes. Et j'adore ce procédé de numéroter pour créer une espèce d'ordre dans ce qui n'en a pas. Et c'est un procédé, je me suis longtemps interrogée pourquoi elle a fait ça comme ça, pourquoi ça marche. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire Tambora sous forme de liste numérotée et ça ne fonctionnait pas du tout. Je pense que les fragments sont trop longs. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas évident. Et c'est d'ailleurs ce que fait aussi Olivia Rosenthal dans son dernier livre. Et c'est très, très réussi. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, la liste numérotée, c'est peut-être pour des...
Parfois ça marche, parfois
voilà.
Ça marche pas.
Et il faut essayer. J'ai essayé plein de choses pour Tambora. Et finalement, c'est cette forme qui peut-être est plus... qui est fragmentaire, certes, mais peut-être plus fluide, enfin, je sais pas.
Plus lié, en tout cas. Ouais. Parfois, il y a des petites astérisques, des étoiles, mais c'est vrai que, on va dire que c'est moins la liste que Une femme sur un fil ou que Bleuet, par exemple, de Maggie Nelson. Est-ce que, à vous entendre Hélène Lorrain comme ça faire le pont, parce que je le proposais aussi, mais entre la lecture et l'écriture, la lecture et l'apprentissage de forme, la lecture et l'ouverture de possibilités de voix, ça veut dire que c'est aussi ça, depuis longtemps, pour vous, le territoire de la lecture, c'est venir en écho avec vous qui écrivez. Vous lisez en tant qu'autrice?
Maintenant, oui. Mais j'ai écrit assez tard. Comme je le disais au début, j'ai mis du temps à même penser que ça s'adressait à moi, cette pratique-là. Dans ma formation de lectrice, on va dire, j'étais dans un tout autre rapport qui était plus de, je crois, le désir d'immersion. Voilà, je pouvais lire pas mal de fantasy, de science-fiction adolescente. Et maintenant, j'ai un rapport beaucoup plus... je vais dire exigeant, mais c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, j'abandonne beaucoup de livres. C'est-à-dire que je vais brasser assez large et je ne me force jamais à finir un livre où je ne trouve pas ce que je cherche. Et d'ailleurs, je sais pas exactement ce que je cherche, je crois, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est les livres qui me proposent quelque chose que je ne cherchais pas. Et je crois que je cherche presque l'inverse de l'immersion, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un rapport au présent et au réel très fort, et un rapport à la lecture qui me permet de d'y entrer, d'y sortir, d'en sortir, de feuilleter, de le prendre au milieu, peut-être un rapport plus libre, plus ludique. Mais qui exclut beaucoup plus de lecture qu'au moment où je n'écrivais pas encore, je crois.
On va parler de votre livre Tambora, on a déjà commencé un peu à le faire, Hélène Lorrain, juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Catastrophe. La chanson s'appelle Frankie et il n'y a qu'une seule phrase en guise de parole, c'est toujours quand on est triste que le soleil revient.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parler du corps pour enfin parler d'autre chose, aujourd'hui dans votre book club. Ou parler du corps qui parle toujours d'autre chose, ou encore parler d'autre chose qui finit par parler au corps. Dans un livre à la forme organique, allant contre le magman radioactif de la peur, vous écrivez, Hélène Laurin, plusieurs expériences de vie, lesquelles se relient comme on relie les points d'une constellation. Vous y cherchez des souvenirs de la vie avec votre premier enfant, vous vous souvenez de l'arrivée de la deuxième et entre-temps, d'une vie potentielle portée 2 mois avant que la grossesse ne soit interrompue. Pour raconter la petite enfance, il faut en avoir la force, il faut s'en décoller un peu. Peut-être que l'adage vaut pour les bébés ou pour la vie en général, y coller et s'en décoller un peu pour les voir. Tambora est un texte qui voit tout en même temps, la catastrophe et la merveille. Il a paru aux éditions Verdier et il figure, entre autres mille autres choses de sa vie, sur la première liste du Goncourt 2025. Il commence comme ça.
Je regarde mes filles, amples comme les villes. Des mégalopoles, brillantes jusque là-bas, au-delà des gratte-ciels, quand on ne voit que le silence en elles. Des villes dans le brouillard, des villes du petit matin, celles des grues qui piquent le bleu, le blanc. Elles fonctionnent en douce, ces mécaniques fourmillantes aux règles tacites. Elles construisent leurs immeubles, réparent leurs ponts, envisagent un parc au sud. Un plan d'eau pour la fraîcheur. Mes filles aux milliers de fenêtres qui s'allument et s'éteignent en syncope, qui s'ouvrent pour aérer ou se ferment pour conserver. Mes filles sont ces villes en expansion, confrontées à l'étriqué de l'univers parental, de cette chose qu'ils appellent la vraie vie, le dehors si peu ample, délimité comme la bêtise comparée aux confins de la vie intérieure. Mes filles bourrines, mes filles crado aux muscles secs, à l'obstination grave des villes.
Je regarde mes filles, c'est le début de votre texte, Hélène Laurin. Je disais que Tambora, et c'est vraiment, il me semble, une des choses les plus saisissantes dans sa lecture, c'est un texte qui parvient à voir plusieurs choses en même temps. Je dis voir tout parce que c'est vrai que c'est très grand, la vie des petits et la catastrophe écologique. Donc c'est une façon de dire voir tout, mais le fait de commencer par dire je regarde mes filles, est-ce que vous pensez que c'est un texte qui naît du regard?
Oui, complètement. C'est aussi encore une fois mon rapport au monde, je crois, qui est un rapport un peu à côté. Pas au même rythme, l'impression d'être toujours plus lente et d'être peut-être un peu spectatrice aussi, mais avec toute la beauté que ça peut contenir. C'est-à-dire que pour moi, une des joies de la parentalité, c'est regarder mes filles. Et je voulais aussi commencer le livre comme ça. C'est pas la première chose que j'ai écrite, loin de là. D'ailleurs, à un moment, c'était placé à la fin, au milieu. J'ai tout essayé dans le montage. Et c'était aussi peut-être une façon d'être accompagnée par elles dans l'écriture et de les présenter comme ça, comme des mondes. On parlait de mots qui contiennent des mondes, mais de les voir comme ça, comme des villes, mais en fait comme des univers. Quand on zoome, elles comportent toutes ces richesses et toute cette complexité. Et ça me semblait... joyeux de commencer comme ça.
Oui, par ailleurs, d'emblée aussi, vous faites des propositions. C'est-à-dire qu'on dit les mots qu'on utilise, ce sont des versions du monde ou une vision du monde. Quand vous regardez vos filles comme des villes en expansion, comme des villes en construction, avec éventuellement des chantiers, des tractopelles, c'est aussi une façon de regarder vos filles. Hélène Laurin est d'emblée pour nous de nous placer, lectrice-lecteur, dans un certain rapport à vos filles.
Oui, d'ailleurs, ça apparaît notamment dans la dernière phrase de cet extrait où je décide de les décrire par leurs muscles, par leur obstination, c'est-à-dire peut-être tout ce que je n'ai pas lu moi en me construisant en tant que fille, ou peu ou trop peu lu dans des portraits de filles qui pouvaient être plus complexes et pas évidemment dans cette docilité, cet effacement et qui colle à la peau, puisqu'encore une fois, ce qu'on lit est matériel, ouais, ce qu'on entend a un effet matériel concret sur le corps. Donc oui, ça s'était fait très consciemment.
Parce que d'un seul coup, si nous, on va cheminer avec vos filles, et quel qu'en soit l'âge d'ailleurs, en les regardant comme ça d'emblée, en les plaçant à cet endroit-là. Donc il y a le regard et puis il y a aussi l'écoute. Plusieurs morceaux de texte sont reproduits en italique, dont on imagine que ça peut être à la fois des descriptions d'une des filles, à la fois des choses entendues, et pas mal de choses entendues, Hélène Lorrain, comme si au milieu des mots que vous décidez de bâtir, il y a le bain de mots, quoi, le discours ambiant. Quelle qualité vous donnez à ces textes-là ?
Ça, ce sont des textes qui m'ont permis de terminer le livre, qui sont venus remplacer un objet sur lequel j'ai travaillé pendant à peu près au moins un an, que je voulais intégrer à Tambora, qui était un objet assez fascinant, qui s'appelait les Vénus anatomiques. Ce sont des Vénus en cire, qui étaient un objet à destination médicale, en fait. Et ce sont des Vénus qu'on peut ouvrir. Il y a un petit bout de satin à côté de leur ventre. On peut les éventrer et sortir leurs organes. Alors, il y a la Vénus lymphatique, il y a la Vénus système digestif. Et souvent, quand on finit de sortir leurs organes, on trouve un fœtus au milieu de leur ventre. C'était des...
Voilà, mais comme objet d'apprentissage médical.
Oui, mais c'est un objet très ambigu, puisqu'elles sont sexualisées, c'est-à-dire qu'elles sont esthétisées, elles ont de très longs cheveux tressés, elles ont des colliers de perles, et elles sont dans une position entre l'agonie et l'orgasme. Donc c'est un objet extrêmement dérangeant, en fait, mais passionnant, par ailleurs, qui nécessitait un savoir-faire qu'une seule personne pouvait faire. Donc en cire, donc il y a cette vibration aussi de la couleur. Si on coupait le cœur de cire, il était teinté à l'intérieur. Donc j'ai été hantée par ces Vénus, et finalement elles m'empêchaient de terminer ce livre. Et je crois que de comprendre que je n'avais pas envie de mêler mes filles à cet objet morbide, en même temps cet objet très signifiant qui avait son sens dans Tambora, et de remplacer cet objet-là par des souvenirs, des instantanés. Vraiment, pour moi, c'est ces passages-là en italique, ces petites phrases-là, c'est des photos qu'on prend avec un appareil jetable. C'est pas très... Je voulais pas trop les travailler dans la langue, il fallait qu'il y ait quelque chose de rapide. D'ailleurs, je les ai écrits en quelques heures. Remplacer les Vénus par ces souvenirs banals m'a permis de terminer le livre. Et je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure solution pour le livre, mais ce livre, mes filles le liront. Et donc, je préfère faire ce choix-là. Et finalement, peut-être que c'est la meilleure solution pour le livre, en fait.
Donc j'ai parlé de ces deux moteurs, le regard, l'écoute, le souvenir. Et... peut-être aussi quelque chose du montage, du tissage, Hélène Lorrain, qui répond à une question. Vous racontez au début que votre grande fille vous demande des comptes un peu sur ce temps qui a passé, mais comment c'était. Et face à cette question-là, il y a comme une machine d'écriture qui se met en route. Est-ce que vous diriez que la question de cet enfant, ou les questions de cet enfant, ou les questions de ses enfants... On était une sorte de moteur d'écriture ?
Probablement, ouais. En tout cas, moi, le moment où j'ai commencé à écrire un texte que je pensais littéraire, parce que ce que j'avais écrit jusqu'à présent, c'était plutôt du scénario, donc peut-être plus technique, c'est à la suite de mon premier accouchement. Donc là, effectivement, ma fille qui avait 2 mois ne m'a pas posé de questions
qui
à ce moment-là.
Qui sait ?
Dans ses yeux, j'ai lu une question. Mais en tout cas, le fait d'avoir vécu ce moment-là, de ne plus être, enfin, d'être accompagnée par ma fille, et peut-être d'anticiper les questions, autour de sa naissance. Et c'était un moment où vraiment il y avait l'idée de garder les traces, de me souvenir dans un moment chaotique, dans un moment un peu incompréhensible. C'était aussi pour elle, pour me dire, je pourrais lui raconter les détails, je pourrais comprendre pour lui expliquer et pour transmettre quelque chose de ce moment-là. Mais aussi, je pense qu'il y a tout un rapport, enfin, toute une interrogation dans Tambora sur ce dont on se souvient, ce qu'on oublie. Peut-être le poids des souvenirs, mais en même temps leur nécessité. Et pourquoi on oublie ? On oublie parce que c'est traumatisant, ou on oublie parce que c'est invisible, dans le cas de la maternité et tout ce qui a rapport à ça, mais aussi dans le cas de la catastrophe du Tambora, où les victimes sont pauvres, sont invisibles. Donc on n'a pas de mémoire de ce moment-là. Donc je crois que c'est un rapport très, très global dans le livre au souvenir et à ce dont on se souvient et pourquoi.
Vous parlez de la catastrophe de Tambora qui donne son titre au livre, survenu en 1815. C'est aussi là-dessus, en tout cas à partir de ça, que s'interroge Clémence qui a lu votre livre, Hélène Lorrain. Elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club et bonjour Hélène Lorrain. J'ai lu Tambora, les larmes aux yeux et la boule au ventre. J'ai accouché il y a quelques mois de mon deuxième enfant, c'est vous dire à quel point ce texte m'a touchée et a résonné en moi. Je pense que beaucoup de femmes pourront ressentir la même chose et j'ai même la preuve que ce texte peut également toucher des hommes même s'ils n'ont pas d'enfants. Merci beaucoup de rendre l'intime si universel, c'était pour moi un grand moment de lecture. J'imagine que ce livre n'a pas été facile à écrire pour vous et de là vient ma question. Est-ce qu'y inclure toute une partie plus concrète et plus tangible sur ce volcan Tambora vous a aidé à mieux parler de votre expérience personnelle ? Merci beaucoup pour votre réponse et merci pour ce livre.
Mais merci à vous Clémence pour ce témoignage ému de votre lecture de Tambora. Hélène Lorrain, d'abord Clémence suppose que ça n'a pas été facile à écrire. Qu'est-ce qu'il en est ? Et d'autre part, est-ce que voilà, l'incursion de ce fait historique de 1815, ce rapport à ce volcan, la manière dont comme ça suspend l'été, d'un seul coup le froid, le sombre, est-ce que ça vous aide à tenir quelque chose du point de vue de la narration ?
Merci Clémence, déjà ça me touche beaucoup d'entendre ça. Alors est-ce que ça a été dur à écrire ? Oui, vraiment. Ça a été très long en fait, puisque le premier texte je l'ai écrit il y a presque 9 ans maintenant. Et j'ai écrit un premier manuscrit qui tournait autour de ça, mais aussi de beaucoup d'autres choses, et que j'ai abandonné pour écrire Partout le feu. Et j'y suis revenue quand ma deuxième fille est née. Et c'est vraiment un projet que j'ai failli abandonner mille fois, que je me suis presque forcée à écrire, d'une part parce que ça occupait tout mon espace mental et que j'avais l'impression que c'était soit ne plus écrire pour l'instant, soit écrire dessus, et d'autre part quand même parce que je savais que ça s'adressait à beaucoup de gens et que moi-même j'avais été en manque de ce genre de récit et que j'avais envie, il y avait quand même un geste de vouloir, il y a beaucoup de témoignages de plus en plus mais qui sont très écoutés d'ailleurs autour de la maternité, mais j'ai toujours l'impression que ça reste dans des niches, c'est pas considéré assez important, assez noble en quelque sorte pour être un sujet centrale en littérature. Donc il y avait toujours cette idée à laquelle je m'accrochais, que c'était important. C'est pour ça que le retour de Clémence me touche beaucoup, parce que je me dis au moins pour Clémence ça a fonctionné.
Et puis par ailleurs vous faites autre chose que du témoignage avec Tambora, c'est-à-dire ouais. Et je pense que c'est très important de le dire dans la manière dont on le lit. On pourrait dire justement, pour vraiment moi quand je l'ai lu cet été, je me suis dit on pourrait vraiment dire que ça témoigne de la maternité, ça témoigne d'une interruption de grossesse, ça témoigne d'une inquiétude, etc. Mais c'est pas ça. C'est un geste littéraire et poétique qui fait avec ça, qui ouvre son corps de livre à ça, mais qui n'est pas une littérature de témoignage. Et Laura, je pense que ça se décale, ça vient pas ni au-dessus ni remplacer machin, mais c'est juste autre chose, quoi.
Oui, je trouve aussi que c'est différent parce que ça tente de chercher enfin, ça propose une façon de dire.
Ouais, une langue pour le dire.
Voilà,
ouais.
une langue vivante, comme je le dis dans le texte, partout, où, enfin, à l'endroit où moi j'ai l'impression d'avoir rencontré des langues mortes. Quand je racontais mes expériences. Et Clémence posait la question du tambora. Et justement,
donc, rappelez juste ce que c'est que le tambora.
Tambora, donc, c'est un volcan indonésien qui a connu une éruption cataclysmique en 1815, qui a plongé, en fait, le monde dans le noir quasiment pendant 3 ans et qui a eu des conséquences, énormément de victimes directes, évidemment, mais indirectes, difficiles à dénombrer, mais certains vont jusqu'à dire que on atteint le million de victimes puisqu'il y a eu des récoltes détruites, des famines, des pandémies, beaucoup de mouvements migratoires, de personnes qui échappaient, enfin qui essayaient d'échapper aux pandémies, aux famines, qui ont frappé notamment la France, l'Europe, voilà le monde entier quasiment à des échelles différentes. Et est-ce que c'est une belle question ? Est-ce que ça m'a aidée d'inclure ça ? En tout cas, ça me semblait nécessaire. Cette histoire du tambora, c'est un pivot en tout cas. C'est donc peut-être un pilier, comme le disait Clémence, qui permet de passer de la première partie qui est très, qui est une sorte de huis clos, qui est un mouvement de repli que moi, j'ai, dans mon expérience, qui s'est fait assez naturellement de protection aussi de conservation en fait, et le tambora permet d'ouvrir en fait ce moment de cet endroit de repli au monde extérieur et donc en partie aux catastrophes mais pas uniquement. Et le tambora en tout cas m'a permis de situer d'articuler en fait ce mouvement dedans dehors.
Dedans, dehors, et vie et mort, puisque vous parlez d'une langue vivante partout où vous rencontrez la langue morte, Hélène Lorrain. Mais il y a aussi tout le temps que vous passez à dire, à trouver une langue, à chercher un endroit ou une façon de le dire, pour parler de l'expérience toute singulière qu'est d'abord l'interruption de grossesse, puis ce qu'on appelle l'aspiration, puis tous les actes médicaux qui sont autour et les discours médicaux qui sont autour, et où il y a une façon de chercher même à savoir de quel côté on est. C'est-à-dire que la langue que vous produisez, c'est une langue qui témoigne de l'expérience bizarre de porter un embryon déjà mort, de ne se rendre compte que 2 semaines après, d'être toute tendue et toutes et tous tendus vers la vie et d'être rattrapée par la mort. Il y a comment faire, comment trouver une langue pour dire ça, quoi. Et on a vraiment l'impression que vous parlez d'une expérience de repli pour le début de Tambora, mais c'est pas que ça. C'est aussi vous qui avez des gros tractopelles là pour trouver une langue pour le faire, quoi. Pour trouver une langue pour le dire.
Oui, de toute façon, le repli est tout relatif, puisque même si on passe le plus clair de son temps, je parle pour moi, à la maison, notamment des moments où on est obligé d'être alité, etc., le monde filtre, de toute façon, qu'on le veuille ou non, et sa langue avec. Donc, c'est vrai que, notamment dans la première partie, il y a vraiment cette idée d'être sur un fil entre vie et mort, puisque pour moi, les expériences d'accouchement sont vraiment, comme ça, c'est des expériences limites, où on a l'impression... Alors, on nous dit
vous
qu'on donne...
Vous reprenez le pied dans la tombe, c'est un... Vous le mettez entre guillemets, non ?
Oui, ça, c'était une expression de mon arrière-grand-mère, qui accouchait les femmes de son village, et qui s'occupait aussi de la toilette des morts. Donc, il y a aussi cet arc entre les deux. Et d'ailleurs, quand ma première fille est née en Allemagne... Là-bas, il y a des sages-femmes qui s'occupent à la fois de donner naissance, mais qui accompagnent les personnes qui meurent. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ce fil, en fait, très, très ténu entre vie et mort, là où on va dire qu'être enceinte, accoucher, c'est donner la vie. Mais en fait, parfois, ça ne l'est pas. Comment on dit ça? Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de mots, en tout cas satisfaisants, je trouve, pour décrire cette complexité-là, en fait. Et donc, il faut tourner autour, il faut passer par d'autres choses, par d'autres paniers, pour faire référence à la citation d'Ursula Le Guin, pour essayer de cerner ce que ça veut dire, cette expérience-là.
On va écouter Maggie Nelson, autrice que vous avez déjà citée, Hélène Lorrain. Elle parle justement de mots qui ont longtemps manqué, de récits qui ont longtemps manqué.
Vous savez, je suis quelqu'un de très littéraire, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai étudié la littérature toute ma vie, j'ai plein de livres chez moi, et quand j'étais enceinte et que j'ai cherché dans ma bibliothèque un récit de maternité à la première personne, j'en ai trouvé un et demi, un en prose, un en de la poésie, que j'ai pu trouver sur mes étagères parmi des milliers de livres. Et je lis la littérature féministe, donc ça montre qu'il y a une vraie lacune là. Bien sûr, il y a quelques rares exceptions, mais c'est vraiment impressionnant. Jusque dans les années 60, quand on regarde toutes ces grandes figures de la littérature, d'Emily Dickinson à Gertrude Stein, tous ces écrivains étaient des ermites ou gays, sans enfants. Il n'y avait pas de modèle autre. Il y a là une vraie lacune historique encore. Et puis il y a la question de la famophobie. J'ai lu beaucoup de récits écrits par des hommes sur l'accouchement de leur femme ou de leur compagne. Mais ce sont le plus souvent des récits littéraires plutôt que des témoignages à la première personne.
Face à la peur, contre la peur, le souvenir qu'un jour, 5 ans auparavant, un bébé vivant est né, notre bébé, dans l'air cru, son cœur plein de sang. L'instant où, lourde et humide, je m'allonge sur le lit, les draps se décolorent sous moi, scène de crime, mon oreiller broyé, les doigts blanchis aux articulations, le moment où, cabré, je commence les incantations. L'instant où, debout, mon sexe s'évite de sang, avec coquetterie, chocolat chaud sirupeux qui s'écoule de la théière. L'instant où j'arrive aux urgences, les mains posées sur les cuisses, le buste en avant, cherchant à respirer encore. Je suis fière, dramatique, la femme qui accouche, la douleur noble et mythique. Enfant, je croyais que Marie était enceinte. L'instant où ma colonne vertébrale est percée par un anesthésiste, tout juste réveillée, je m'abandonne aux drogues avec béatitude. Le moment où j'apprends que tu es Sternengucker, tu regardes les étoiles, ton dos est contre le mien, tu ne peux pas tourner. Tu ne tournes pas, donc tu ne nais pas. Le moment à partir duquel je ne comprends plus rien. Je dors comme on s'évanouit. L'accompagnant se recroqueville à vue d'œil. La tension est basse. Le cœur décélère. De qui, je ne sais pas. Je m'alaise, on me râpe et fouille. Un ultimatum est lancé proche. Césarienne, consciente, inconsciente, le reste se fait avec mon corps. Sans moi. L'instant où on ouvre, madame. L'instant où j'entends « Votre bébé est né », la voix inquiète. Pas de cri, elle ne crie pas. Des mains l'enlèvent, courent. Il faudrait crier, je veux crier. Pas de cri. La seconde où la sage-femme dit « Il faut que je vous présente quelqu'un ». Cette nuit-là, nous sommes témoins d'une chose. Ton surgissement impossible.
Un extrait de votre texte, Hélène Lorrain, et juste avant, une archive de Maggie Nelson au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter en 2018, qui dit son effarement de n'avoir pas trouvé pendant tant d'années des récits qu'elle a cherchés. Et pourtant, dit-elle, j'ai une grande bibliothèque. Je reviens à ce que disait Clémence, notre auditrice, qui dit « je me sens moins seule ». Et à la dimension quand même politique que vous donnez, au courage qu'il vous a fallu pour écrire ce texte, Hélène Lorrain, qu'est-ce que c'est? Là, on l'a coupé, hein, mais qu'est-ce que c'est que d'éditer en 2025 6 pages d'un accouchement, qui se termine bien, hein, mais d'un accouchement? Qu'est-ce que ça produit concrètement?
Qu'est-ce que ça produit pour moi?
Pour vous, puis pour nous? Je dirais vraiment un nous tout confondu, quoi.
Ce que je voulais, moi, que ça produise, c'est peut-être... Alors... qu'on ne puisse pas détourner le regard. Alors, c'est... En réalité, ça se passe pas comme ça, puisqu'on peut très bien choisir de ne pas acheter le livre, de se boucher les oreilles, je ne sais quoi, mais il y a vraiment une volonté de montrer ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on voudrait qu'il soit édulcoré, qu'il soit enjolivé, et peut-être combler, en fait, cette lacune de ne pas avoir... été entendu, et même c'est compliqué quand même de dire ça. Je me souviens, j'ai pu aussi essayer de raconter mes accouchements à des amis, mais qui étaient enceintes, qui n'avaient pas forcément envie de l'entendre. Donc il y a vraiment créé des conditions, puisqu'on sait ce qu'on achète, on achète ce livre qui parle de ça, pour être confronté au... à la brutalité, enfin au brut en tout cas, de ce que ça peut être. Et peut-être que des personnes, moi ce que j'espère, c'est que des personnes qui ne vivent pas l'accouchement puissent s'y intéresser aussi. Peut-être qu'ils se disent qu'ils sont intéressés par l'éruption du Tambora et qu'ils tombent en chemin là-dessus. Et puisque on sait que l'enjeu, ce n'est pas uniquement la libération de la parole, mais c'est aussi la libération de l'écoute. Donc là, pour moi, l'envie, c'était peut-être de forcer l'écoute, en quelque sorte.
Mais peut-être qu'il y a plein de personnes, et le monde en témoigne, qui ne sont pas intéressées aux accouchements, mais en tout cas, tout le monde est né, Hélène Lorrain. Et donc, de toute façon, tout le monde est concerné par ce que c'est que de naître et par, sinon la brutalité, en tout cas l'aspect brut de la naissance. Et moi, je pense qu'en plus de ce que vous décrivez là, de forcer l'écoute, il y a aussi remettre au centre de l'expérience de la vie la dinguerie, voilà, parfois horrible, dramatique, difficile, et parfois tout en même temps aussi que c'est de naître ou de donner naissance. Et je pense que c'est aussi me remettre en circulation des images de vie. Et je pense que ça, c'est important. De le dire dans l'économie, je parlais d'une politique de l'écriture, mais j'y tiens vraiment à ce terme-là, parce que j'ai trouvé, moi, dans Tambora, une forme d'éthique, quoi. Une politique de l'écriture et aussi une éthique de la vie d'aujourd'hui, qui se termine par ailleurs par la vie belle, donc c'est assez encourageant, mais il me semble qu'en faisant ça, et ce n'est pas que dire « regardez vous qui ne voulez pas entendre », c'est aussi « on est ça, quoi ».
Oui, ouais, c'est et on veut peut-être l'oublier ou on veut s'intéresser à d'autres choses qui sont moins mélangées justement, qui sont moins complexes, qui sentent moins fort, qui ne saignent pas, qui sont moins chaotiques. Mais effectivement, c'est quand même on n'accouche pas tous ni toutes, mais on est tous. Donc on est tous passés par ce moment originel. Donc moi aussi j'ai vécu cet effarement de me dire mais pourquoi en fait on peut pas l'écrire ? On le peut. J'imagine qu'il y a eu longtemps une forme d'autocensure d'autrices qui se disaient mais si j'écris ça je vais être. D'ailleurs c'était le cas de Marie Dariussecq quand elle a écrit Le bébé. Où certains critiques écrivaient « Elle aurait mieux fait de jeter son manuscrit avec les couches de son bébé ». Je pense qu'il y a eu quand même longtemps une volonté de l'écrire, mais il y a eu une impossibilité de recevoir ça.
Il n'y a qu'à voir si on change de champ artistique et qu'on va du côté du cinéma. Il me semble l'effet de nouveauté que produit la scène d'avortement dans « Portrait d'une jeune fille en feu » réalisée par Céline Sciamma, où d'un seul coup, un avortement en plus dans une situation de très grande sororité produit une image nouvelle, nécessaire, mettant en circulation une représentation nouvelle. Enfin, ça... Au-delà de plein d'autres choses dans ce film, ça a eu cet effet-là. On écoute un avant-dernier extrait de votre texte. Peut-être pour parler de l'autre travail que vous faites, qui est rendre ce ton mou, élastique, étrange de la parentalité.
Toi, la petite, chaque jour, du matin au soir, je t'observe. Le mystère de ton monde sensation. La pâte à modeler de tes doigts, la farine de ton cou, l'attente infinie de ce qu'on te donne et de ce dont on te prive. La fourrure de ta peau, l'irritation des pluies, suintement léger, crasse facile, inexorable, plein du corps neuf. Prix à payer de mon corps qui vieillit, des cheveux perdus, de la fermeté placard. Parfois aussi, j'observe inquiète la lenteur de tes progrès. Tu te soumets à mes scrutations et en glace déplacée. Tu n'es qu'indulgence, acceptation de tes parents limités, parents finis. Être parent, c'est la joie qui défonce la porte, entre par effraction, ramène ses valises, s'installe pour durer. Pourtant, quand jour et nuit tu pleures sans discontinuer, ne peux survivre hors de nos bras, Marie Tournelle est alors ma folie brillante, un éclat de rire qui fait couler le cerveau. Je vais crever.
Hélène Lorrain, il y a une autre facette de ce livre qui est trouver aussi la texture pour dire le temps avec les tout petits enfants. Est-ce que, ou peut-être à quoi répond ce projet littéraire-là, qui me semble être comme un, je sais pas, comme un troisième temps de livre, quoi, comme l'échappée belle.
Ça, c'était encore une autre interrogation. Comment parler du répétitif, comment parler de l'hyper quotidien, de l'infraordinaire, comment parler de ce qui même ennuie les gens dans une conversation, et en parler de manière littéraire, toujours avec cette langue vivante. Et c'est marrant parce que hier, je retombais sur une anthologie de Christophe Tarkos qui lui parle de Patmo, vraiment écrit comme on l'entend, qui est comme ça une matière extensible ou qui peut se contracter aussi et qui est matérielle et corporelle. Et lui, il revendique l'idée que la poésie peut faire le même effet qu'un sac de sable sur la tête. Et j'aime beaucoup cette idée, voilà, de cette langue-là pour décrire le temps qu'on ne voit pas passer puisqu'il est tellement répétitif qu'en fait, les jours ne se distinguent pas les uns des autres. Et en même temps, c'est ces petits moments de minutie où on va prendre soin d'un corps minuscule et il faut être le plus délicat possible. Et ça se situe entre des moments limites où on est dans un état d'épuisement, où on ne sait même plus comment on s'appelle. Donc, comment définir cette collision de ces temps-là, de ces états-là, qui sont dans l'extrême ordinaire et dans l'extrême tout court. Moi, là, ce que je propose dans ce texte, c'est toujours les fragments qui se diluent, qui se resserrent, qui hachent peut-être un peu plus le texte, et qui permettent peut-être de faire ressentir quelque chose de cette expérience.
Parce qu'il y a aussi dans ce fragmentaire du texte quelque chose qui renvoie au morcellement du temps, mais aussi au morcellement du corps parental et peut-être un peu plus spécifiquement du corps maternel, au morcellement de la conscience. Le je vais crever qui vient ici dans un éclat de rire après une insomnie, en fait, il vient dans un éclat de rire, mais il est très 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 dramatique. Il est réel. Il est terrible. Et il vient en même temps que la façon dont vous vous branchez très fort, ou peut-être pas vous, mais votre texte se branche très fort à la lumière, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait quelque chose que vous parvenez à, je crois pas que les parents, à brancher le monde sur qu'est-ce que c'est que la lumière de petits enfants, quoi.
Oui, parce que ça aussi, finalement, je trouve que, alors peut-être plus que ce qui a trait à la maternité, mais des descriptions de tout petits enfants, je crois que j'en ai peu lu. En tout cas, c'est hyper intéressant d'observer, encore une fois, le livre commence par ce regard sur mes filles. Observer un tout petit enfant, certes, il est incontinent, certes, il ne parle pas, il voit à peine, il voit en noir et blanc. Mais, et justement, il y a un passage où je liste tout ce qu'elle sait déjà faire. Mmh. Dès la naissance, tout ce qu'elle a déjà. Elle a déjà des voûtes plantaires, elle a déjà 10 doigts, 10 orteils, elle a déjà les 5 sens. Et d'ailleurs, là, je me suis inspirée d'un texte d'Audre Lorde qui s'appelle Zami, où elle s'attachait à décrire tout ce que sa mère savait faire malgré le fait qu'elle ne parlait pas l'anglais après leur migration et qu'il y avait plein de choses qu'elle ne comprenait pas. Mais par contre, elle savait mélanger les huiles et les épices. Et il y a vraiment, encore une fois, cette volonté pour moi de visibiliser ce qui est minorisé, en fait. Notamment le corps et la vie passionnante des nourrissons.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et tous les jours dans le Book Club, on joue à repérer de la musique dans les livres. Il y a celle très claire des enfants qui jouent, entre autres choses, dans Tambora, Hélène Lorrain, et puis il y a ce passage-là. Peut-être que je rappelle au passage que nos auditeurs, auditrices, peuvent aussi repérer des airs musicaux, dans les livres et nous écrire via lebookclub@radiofrance.com. Comment faisaient les Romains quand leur empire s'écroulait ? J'aimerais bien qu'il me donne 2-3 astuces. C'est intéressant en même temps, une civilisation qui s'effondre. Tous les gamers vous le diront. Observons et buvons nos cocktails pendant que le bateau coule. Rions des premiers pas de notre fille sur le Titanic. Réjouissons-nous que notre aîné apprenne à lire dans le vol avant le crash. Je veux brosser vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient ce serpent brillant dans ma main. Sentir nos ventres se gonfler l'un contre l'autre. Enfiler les vêtements sur vos membres hésitants. Caresser si doucement vos joues que je n'en touche que le duvet. Je veux jouer au domino dans la maison sainte par l'ouragan. Écouter Anne Sylvestre alors que l'eau lèche les façades. Cuisiner un gratin sous les œufs de grêle éclatant les Vélux. Vous faire prendre le bain quand la fumée noircit le ciel.
Ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre. Moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page. Le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large. Il a voulu voyager.
Déplie-les bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes? De qui me les a coupées? Qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler?
Moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas.
Merci beaucoup, Hélène Lorrain.
Merci
d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Tambora aux éditions Verdier. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions et particulièrement aujourd'hui à Garance Roubiou qui faisait ses débuts en lecture en direct. Bravo. Vous pouvez continuer la conversation via le compte Instagram du Book Club grâce à Alexandre Alaï-Begovitch. Bon après-midi sur France Culture.